La suite, c'est la suite historique. Juste avant de retrouver Serge Tizi, je vous propose de vous rappeler les paroles de Louise. Louise, mais qui a soulagé sa peine? Porter son bois, porter les seaux, offert une écharpe de laine le jour de la foire aux chevaux. Et qui a pris soin de son âme et l'a bercée de dans son lit et qui l'a traitée comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes du chantier des chemins de fer, à l'heure laissée aux domestiques, elle le rejoignait près des barrières. « Me voudras-tu, moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter ?» L'homme, à sa taille sur la route, passait son bras la promener. L'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis, vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées. Et l'on racontait leur bataille, dans le salon, après le thé. Les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre par une aiguille à tricoter. Si je vous garde, Louise, en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille, priez très fort pour que s'efface ce que le curé m'a appris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a cachée. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 80 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a été. Allez, je vous propose de retrouver Serge Tizi, La vie à l'arrière du front, cette fois-ci, la suite d'une émission consacrée à la guerre 14. On fait une petite entrée en matière avec Qu'est devenu Madelon.
Qu'est devenu depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleue, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire ce passage?
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral Manosque. Bonjour, chers élèves. Bonjour à tous les confinés, à ceux qui sont en train de se déconfiner. Donc, nous allons aujourd'hui continuer notre histoire de la guerre 14-18 par la vie à l'arrière du front. Donc l'union sacrée de 1914 est de mise dans les deux camps, du moins au début du conflit. La guerre, dépassant les pronostics dans le temps et dans la forme, entraîne une mobilisation totale de l'arrière pour soutenir ce front. Mais aussi commencent dès 1915 les premières critiques et la fracture en fait de cette union sacrée. Alors, pour étudier cette question, nous allons d'abord nous attarder sur le rôle des États et de l'État dans chacun des cas des pays belligérants. L'État est primordial. C'est l'État qui est l'incarnation de la nation. L'Union sacrée interdit de fait, normalement, toute opposition à la guerre. Les États se renforcent en se concentrant. Que ce soit le chancelier allemand von Nolweg ou les présidents des conseils français, René Viviani, Aristide Briand ou Georges Clemenceau, ils doivent mener la guerre, vaincre l'ennemi. Au fond d'eux, c'est le cas notamment du côté allemand, on espère, parfois du côté français, on espère quand même une paix, dont je parlerai par la suite. Il faut mobiliser l'industrie et l'agriculture. Les usines changent de production. Renault ne construit plus des automobiles, il construit aussi des moteurs d'avion. avions, des obus, des chars. La France installe son usine de gaz moutarde dans les Alpes d'Haute-Provence à Château-Arnoux dès 1915. Peugeot construit, lui, des obus, des mitrailleuses, des casques. Quant du côté allemand, BMW est le grand fabricant de moteurs d'avion, ce qui représentait d'ailleurs sur son sigle. Il faut couvrir tous les besoins des 70 millions de soldats mobilisés entre 1914 et 1918. Ça va de l'armement à la tenue, à la gamelle et à tout l'attirail qu'il faut pour que le front ne sombre pas. Pour que les usines tournent et continuent d'inventer de nouvelles armes, il a fallu très rapidement aux différents états-majors de part et d'autre de retirer du front les ouvriers les plus spécialisés, les techniciens dont avait besoin cette industrie. Il a fallu mobiliser aussi des artistes peintres pour créer des camouflages, des forces terrestres, navales et puis ensuite aériennes. Il a fallu mobiliser aussi les femmes pour pallier le manque d'hommes. Alors, que les choses soient bien claires, on entend souvent les femmes ont commencé à travailler en 1914. Alors, non, ça c'est vraiment elles ont toujours travaillé. Elles ont toujours travaillé. Seulement, il y avait des emplois qui étaient plutôt réservés aux hommes. Alors où est-ce qu'on va trouver les femmes? On va les trouver derrière des tours, derrière des fraises pour usiner les obus, les armes, les canons. Elles remplacent les hommes dans les champs, dans des métiers qui leur étaient au départ réservés, parce que l'homme étant musculairement plus fort que la femme, il avait donc des fonctions spécifiques. Elle remplace les hommes dans des métiers qui au départ étaient interdits aux femmes, conductrices de tramway, conductrices de métro, conductrices de taxi, tout ça c'était des métiers qui étaient réservés aux hommes. Et bien là on va les retrouver donc occupés par des femmes. Donc l'État doit absolument tenir la cadence. On impose 18 heures par jour, 7 jours sur 7, sans de droit de grève. Tout mouvement de grève est considéré comme anti-national, anti-patriotique, ne soutenant pas le front. Donc quand il y a des mouvements d'humeur, on envoie tout de suite la troupe, histoire de calmer les meneurs. En 1915, donc il faut aussi, pour que cette industrie et cette agriculture fonctionnent, il faut une main d'œuvre. Cette main d'œuvre-là, côté de l'entente, on ira la chercher en Chine. Je parlais dans la première émission sur 14-18 de l'implication de la Chine. La Chine va envoyer 300 000 ouvriers et paysans vers la France pour soutenir l'effort de guerre. En 1900 et ensuite, il faut donc un financement. Ce financement, au départ, il est fait sur les réserves. Je rappelle, l'Angleterre, l'Allemagne, la France sont, en 1914, les grandes puissances économiques du monde. La France est considérée comme l'un des grands banquiers du monde. On a des réserves. On a des réserves d'or. Et donc, les États vont utiliser ces réserves d'or. Seulement, je répète, la guerre était prévue pour 6 mois. Elle ne dure pas 6 mois, elle dure au-delà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir d'autres ressources puisque les réserves fondent comme obus sur le front. Dans tous les pays, les États demandent donc à la population de donner qui son or, qui son argent, qui sa ferraille pour produire des armements, qui aussi ses tissus pour reproduire les uniformes. Il faut donc soutenir que chaque citoyen soutienne la nation en armes, c'est-à-dire les soldats. Et quand les familles, les femmes le font, on met aussi dans la partie et dans le travail les enfants dans les écoles. On se sert de ces enfants pour faire les bandes de bandages pour les soldats. On leur fait faire du travail manuel, si on peut appeler ça comme ça, pour soutenir l'effort de guerre. Car en fait, le but, c'est bien sûr qu'il faut vaincre, et les états-majors de part et d'autre promettent qu'ils vaincront. Tout ceci ne résout toujours pas le problème financier. Les États donc s'endettent et demandent des prêts à d'autres pays. Et le pays qui en profite le plus, si on peut appeler ça comme ça, ce sont les États-Unis qui, eux, vont prêter des financements, notamment aux forces de l'entente, c'est-à-dire à la Grande-Bretagne et à la France. L'État doit aussi maintenir le moral et la combativité. Alors, on a souvent dit que à l'arrière, on se rend pas compte véritablement de ce qui se passe sur le front. Alors c'est vrai qu'ils ne peuvent absolument pas s'imaginer ce que vivent les soldats sur le front. Seulement, ils voient les morts. Ils voient les morts. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que un soldat meurt sur le front, eh bien, on informe sa famille. Donc au départ, c'est, on va dire, conseil municipal, le maire qui va voir la famille pour dire, ben voilà, votre fils Helmut ou votre fils Jean est mort au champ d'honneur. Après, les drames sont tels que les mères, ils osent plus trop y aller, et donc ils envoient en fait ce qu'on appelle des veuves noires, c'est-à-dire des femmes qui sont déjà en deuil et qui vont vers les familles pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Donc on sait. Tout le monde sait qu'il y a la guerre, tout le monde sait qu'il y a des blessés, tout le monde sait qu'il y a des morts. La seule chose, c'est qu'on ne mesure pas véritablement à l'arrière comment vivent les soldats sur le front. Donc, la presse, puisque à l'époque, on a une presse écrite, on a un cinématographe qui remplace en fait la télévision Internet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va au cinéma pour avoir les actualités. Alors attention, il n'y a pas de son au cinéma, on assiste à un film en noir et blanc avec un clavier qui joue à côté, et puis les commentaires qui sont écrits sur l'écran. Donc, que ce soit la presse, que ce soit le cinéma, eh bien, ces modes de médias sont vraiment très censurés par l'État et l'armée qui joue son rôle de censure. Et tout comme l'armée joue son rôle de censure sur les courriers qu'adressent les familles aux soldats ou que les soldats adressent donc à leurs familles. On a donc une presse qui ne montre pas la réalité. Elle montre le courage, les valeurs, le héros, les remises de médailles, les défilés militaires, les troupes coloniales, les alliés, voilà, les vaincus. Des fois, on a des images aussi de prisonniers. La propagande glorifie le héros pour la patrie du côté français ou britannique et pour le Vaterland du côté allemand ou autrichien. La propagande fustige la barbarie de l'autre. Hein. L'autre, c'est toujours le barbare. Donc, les Russes sont des barbares. Les Français, quelle honte. Voyez comment ces Français agissent. Ils nous mettent des troupes noires devant nous. C'est-à-dire qu'ils prennent des sauvages pour lutter contre des Blancs. Vous avez aussi... regardez ces Allemands, les crimes qu'ils commettent sur les départements et en Belgique occupée. Regardez comme ces barbares allemands, comme disent les Anglais, ont bombardé, détruit la belle cathédrale de Reims, ils ne respectent rien. Donc on a une guerre de propagande avec des mots. L'autre, par exemple, pour les Anglais, les Allemands sont les uns, pour les Français, ce sont les Boches, pour les Allemands, les Français, ce sont soit les Franzmann ou soit les Onkel Pitch. Pitch, c'est le son de la balle française, soi-disant. Donc le front ne doit pas être vu, mais deviné dans ces médias. Les cadavres ou les morceaux de cadavres sont interdit. On montre jamais une photo avec des rats qui sortent des crânes. Les tranchées sont nettoyées ou plus ou moins nettoyées pour prendre la photo. Et quand Georges Clemenceau vient sur le front pour constater en 1917 comment vivent les soldats, eh bien les photos qui sont prises de lui, alors c'est sûr, on le voit un peu dans la boue, mais enfin, ce sont des photos un peu aseptisées. On a enlevé les bras et les corps. Il faut surtout pas que derrière on voit l'énormité de la barbarie du front en lui-même. L'État se charge aussi des soins aux blessés. Et là aussi, c'est pareil, on ne montre pas non plus les blessés tout de suite. Hein. On les met dans des centres de soins, à l'arrière, où c'est la première fois que certains soldats vont revoir des femmes qui sont mobilisées pour être des infirmières aux côtés des chirurgiens qui inventent à ce moment-là les les débuts de la chirurgie esthétique. Il faut s'occuper des amputés, des gazés, des brûlés, des choqués. On découvre tout d'un coup que des soldats puissent être choqués par des bombardements et ce qu'ils voient. Alors au départ, on pensait que ces gens-là qui tremblaient, qui avaient des tremblotes, c'était un peu du chiquet, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils étaient en fait, ils jouaient un rôle, ils simulaient. Et en fait, on se rend compte maintenant que c'est des gens qui ont été largement choqués. J'en reparlerai quand je parlerai des conséquences. Avant tout, le moral de l'arrière passe bien sûr par la nourriture. la priorité des États, c'est de nourrir. Alors d'abord nourrir les troupes. Donc il faut les nourrir, il faut les abreuver. Il faut aussi leur donner du tabac. Il faut leur donner un maximum de confort dans un cas de guerre. Donc le grand acheminement de vivre, c'est pour eux. À l'arrière, que ce soit du côté français ou que ce soit anglais ou que ce soit italien ou que ce soit les Ottomans et compagnie ou les Allemands, les Autrichiens et les Russes, eh bien il faut d'abord se serrer la ceinture parce que le but c'est quand même de nourrir d'abord les soldats et ensuite l'arrière. Donc et là il faut distinguer le côté français, anglais, italien d'un côté, belge, hein, en comptant nos amis belges qui ont vaillamment combattu au sud-ouest de leur pays. Donc on a donc sur ce front occidental, on a donc une population à l'arrière qui doit se serrer la ceinture mais qui mange encore. Les colonies pallient aux besoins alimentaires qui ne peuvent plus produire par exemple une partie de la France, que pas seulement alimentaire d'ailleurs mais aussi énergétique avec le charbon et puis le fer. Nous avons ici donc une population qui est approvisionnée qui doit serrer la structure, certes, mais qui est approvisionnée, à moins que, bien sûr, un U-boat vienne couler les navires marchands. Donc, du côté allemand, autrichien, ou russe, ou ottoman, la situation, là, est véritablement catastrophique. Les rations se réduisent tout au long de la guerre. D'autant plus que du côté allemand, eh bien, il a fallu mobiliser tous les paysans ont été mobilisés. On voit la même chose d'ailleurs du côté russe. Résultat des courses, ben, si vous avez tous vos paysans qui sont mobilisés et qu'il n'y a personne pour venir pallier cette absence de paysans, eh bien, vous n'avez plus les meilleures récoltes. Résultat des courses, en Allemagne ou en Autriche, Hongrie ou en Russie, on commence à avoir des cas de famine. En 1917, rien que pour l'Allemagne, vous avez plus de 700 000 morts de faim dues à des maladies comme le scorbut, la tuberculose, la dysenterie et les ersatz, c'est-à-dire les Allemands étant en blocus, donc ils ne peuvent plus avoir ni le sucre qui vient des Antilles, ni les vitamines, ni le blé. L'Allemagne était déjà dépendante pour un tiers de sa consommation du blé étranger. Et bien ce blé étranger étant bloqué, puisque les Anglais font le blocus naval, on commence à avoir un pain qu'on appelle le cabrot, un pain avec de la pomme de terre et de la farine, et puis au fur et à mesure que la guerre continue, eh bien on a aussi du Eckhoff, pardon, qui est lui du pain fait avec des écorces de bois. Donc comment dire, l'esprit unitaire de l'Union sacrée s'est effondré, notamment en Allemagne et en Autriche, avec cette crise du pain qui est véritablement le symbole de gastronomie allemande, d'ailleurs française aussi de l'époque. Hein. Le front de la patrie, eh bien, il s'est effondré à cause de ce problème alimentaire. Toute remise en question de l'effort de guerre, je répète, est considéré comme, dans ce climat de guerre totale où tout le monde, toutes les industries, toute la population, jusqu'au petit enfant est mobilisé pour la victoire, toute remise en question de cet effort de guerre est considérée comme une trahison. La paix, pourtant, était demandée. Le pape Benoît XV a demandé plusieurs fois la paix. Bon, il n'est pas écouté. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas véritablement la radio. Vous avez aussi l'aile gauche des sociaux-démocrates, des socialistes, qui se réunissent en Suisse, à Zimmerwald, en septembre 1915. Et on voit là, déjà l'émergence ou la pré-émergence de partis, on va dire, communiste à partir de 1917-1918, avec du côté allemand Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, et du côté russe, on a déjà Léon Trotsky et Lénine qui participent à ce type de choses, mais à ce type de réunion. Mais faisons bien attention, d'une part, ils sont rejetés par une grosse partie des sociodémocrates dans tous les pays, que ce soit les travaillistes anglais, les membres de la SFIO française ou le SPD allemand, qui sont eux pour un maintien de l'Union sacrée, même s'il y a des critiques, mais du moins aller jusqu'au moins là, une victoire dans l'honneur. En 1917, on voit la première fracture réelle, et cette fracture réelle, c'est la double révolution russe qui se déroule en deux temps. Une première en février 1917, à la demande des Russes, qui meurent de faim déjà dès 1916, qui demandent en 1917 la paix, sauf que le gouvernement qui vient de renverser le tsar, s'oppose en fait parce qu'il espère un dernier soutien franco-britannique, et il continue à mener la guerre, ce qui aboutira à une deuxième révolution russe, celle d'octobre, orchestrée, maintenant on le sait, par Berlin, qui facilite notamment le voyage de Lénine de Suisse jusqu'à Saint-Pétersbourg en passant par la Finlande, et qui, ce Lénine, va appliquer la promesse des soviets, c'est-à-dire la paix immédiate, et en même temps engager une révolution qui, dès 1917, mettra la démocratie en pause, et donc commencera un régime révolutionnaire dirigé par Lénine et le parti bolchevique soviétique. Donc, une rencontre entre le chancelier allemand et le président du conseil, notamment Aristide Briand, a échoué en 1917, alors qu'elle avait aussi le soutien du roi des Belges. Nous terminerons par Georges Clemenceau, qui, du côté français, répond à l'Assemblée. Donc, il y a eu des débats à l'Assemblée, notamment après la défaite du chemin des dames. Donc il y a eu de gros débats, et Clemenceau dit « ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien, et ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. La politique intérieure, je fais la guerre, la politique extérieure, je fais toujours la guerre. » Et il sera considéré comme le père de la victoire pour ne pas avoir abandonné. La guerre provoque aussi, de l'autre côté du théâtre des opérations, c'est-à-dire du côté du Moyen-Orient, puisque je répète que l'Empire ottoman était bien sur le Moyen-Orient et que les Anglais ont fait une offensive, une double offensive, une vers l'Irak actuel et l'autre vers la Palestine et la Syrie, avec le soutien des Arabes, des nations arabes avec lesquelles ils ont pactisé, en disant écoutez, si vous êtes avec nous contre les Ottomans, nous créerons un grand royaume pour vous. On verra par la suite, je vous expliquerai par la suite comment ça se passe. Dans cet empire ottoman qui est pris entre tous les feux, attaqué aux Dardanelles, attaqué aussi par les Russes à travers le Caucase, vous avez une population qui, elle, va subir la guerre. Ce sont les Arméniens, c'est-à-dire les chrétiens qui habitent à l'est de l'empire ottoman à ce moment-là. Ces chrétiens arméniens vont être littéralement exterminés par les Ottomans, et notamment ce qu'on appelait les jeunes Turcs, Enver Pacha, Talat et Talat Pacha, qui décident de déporter la population arménienne de l'est du pays vers le sud. Et les hommes sont systématiquement massacrés. Quant aux femmes et aux filles, elles sont soit violées, soit vendues en esclavage. Et pour le reste, les survivants, ils vont mourir dans le désert. Les seuls qui ont réussi à s'échapper, ils sont très rares. C'est ceux qui sont allés aller jusqu'au Liban, mais très très rares, et les seuls que nous avons aujourd'hui encore, ce sont eh bien ceux qui habitaient à Constantinople et à Smyrne, c'est-à-dire sur la côte de la mer Égée. Donc ce sont eux qui viendront se réfugier par la suite, notamment dans notre ville de Marseille. La fin de la Première Guerre mondiale s'explique aussi par une autre révolution, c'est la révolution allemande. Elle commence en janvier 1918 par une grève générale à Berlin, à Hambourg, à Cologne et dans la Ruhr. C'est une grève générale qui est matée, pour ainsi dire, avec l'aide des sociaux-démocrates qui trouvent un accord. Et puis vous avez Hindenburg qui annonce tout fièrement, puisque c'est le chef d'état-major, avec Ludendorff, qui annonce bah, « nous allons avoir la dernière offensive, l'offensive pour la paix, il faut encore faire un tout petit effort ». Et c'est ce qui donnera la deuxième bataille de la Marne. Et devant cet échec-là, eh bien, Guillaume II donc va nommer Max de Bade comme chancelier parce qu'il pense que Max de Bade peut aussi provoquer une paix, notamment avec les Américains. Seulement les Américains, ils disent bah « Maintenant, nous, on veut absolument pas signer une paix avec vous, surtout pas avec Guillaume II. » Donc, on signera une paix, mais surtout pas avec Guillaume II. Donc, puisque Guillaume II est considéré comme le Kaiser, est considéré comme le fautif de la Première Guerre mondiale. Le 28 octobre 1918, donc c'est l'armée, donc Ludendorff et Hindenburg, l'état-major allemand, qui se déclarent, eux, ils se mettent un peu en écart. Ils disent, bon, nous, tout ça, ils voient bien que la guerre est finie, que la guerre est perdue, l'armée allemande recule sur le front occidental, les Autrichiens et les Hongrois, leurs plus grands alliés, eh bien, sont aussi en train de reculer, puisqu'il y a l'armée française d'Orient qui fonce avec les Serbes, les Grecs et leurs alliés qui foncent vers Vienne. Donc, et vous avez, à partir du 29 octobre, eh bien, les marins de la flotte de guerre allemande à Kiel, du côté de la mer Baltique, qui se mettent en grève parce que leurs amiraux se disent bah tiens, bah pour l'honneur, on n'a qu'à faire une dernière offensive. Et là, les marins ils disent non, on va pas partir. En plus, il y a la marine britannique qui est juste devant. On va se faire massacrer. Donc, ils disent bah, nous, il est hors de question qu'on aille mourir pour l'honneur. Et vous avez des mouvements de soldats et d'ouvriers qui se forment donc à Kiel, à Lübeck, à Hambourg, à Brême, à Stuttgart, à Strasbourg, et qui forment des soviets. On a le drapeau rouge sur la cathédrale de Strasbourg, on a le drapeau rouge sur l'Aubette, on a le drapeau rouge sur la mairie de Strasbourg, bref, nous avons des soviets partout. À Munich, la grande ville, la grande capitale de Bavière, eh bien, vous avez un parti social-démocrate, le SPD, qui prend le contrôle de la ville et qui crée une république socialiste de Bavière. Et Guillaume II, pendant ce temps-là, le Kaiser, il est où? Il est à Spa, en Belgique, dans son état-major de l'Ouest. Il constate que ses armées reculent, il constate aussi, on l'informe, hein, qu'en Allemagne, vous avez des soviets qui se sont mis partout, il faut faire quelque chose. Et le 9 novembre 1918, à Berlin, eh bien, on a une double révolution, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez Philipp Scheinemann du SPD, donc le Parti Social-Démocrate, qui proclame devant leur hashtag la République allemande, et vous avez pas très loin, à quelques centaines de mètres de là, sur le château royal de Berlin, vous avez Karl Liebknecht qui hisse le drapeau rouge et qui proclame, lui, la République socialiste libre d'Allemagne. Donc on a deux visions de l'Allemagne dont je reparlerai par la suite. Et Guillaume II, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se réfugie aux Pays-Bas. Et celui qui met le gouvernement qui signe l'armistice le 11 novembre à Rotonde, à pas très loin de Compiègne, dans un wagon, eh bien, c'est pas le Kaiser, c'est pas l'état-major allemand, c'est la toute jeune république allemande qui va signer cet acte d'armistice. Attention, l'armistice n'est pas une paix. L'armistice, c'est une cessation des hostilités. Les Allemands retournent chez eux. Aucune troupe française, aucune troupe russe n'est rentrée en Allemagne. Ils retournent chez eux et ils laissent le champ libre donc aux Français, aux Belges, aux Britanniques qui vont reprendre leur territoire. Donc, Et ce, n'oublions pas, parce que ça sera très important par la suite, que c'est cette jeune République allemande qui est tenue et qui sera tenue, notamment aux yeux d'Adolf Hitler et des nazis par la suite, comme seul responsable de l'échec, alors qu'en fait, on voit bien ici que l'échec, il était au départ le fait que la population était exsangue, que la population allemande a été exsangue parce que ils n'avaient pas suffisamment à manger et que en plus les décisions de l'état-major allemand ont été en dessous de tout, en tout cas à partir de 1917-1918. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, un bon confinement et puis à bientôt où je parlerai des conséquences de la Première Guerre mondiale. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.
Enden hört unser Weg nicht auf, wohin wir uns auch wenden, die Zeit im leeren Lauf. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbannt, so ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland. Vielleicht kehrt von uns keiner mehr zurück ins Heimatland. Zu Vater, Mutter, Schwester, dem einzig unser Sinn, beim Kanonenorchester, wir geben es kein Gewinn.